Alléluia. Voilà quelques semaines, peut-être même des mois, je suis un peu perdu dans le temps. Que un thème pousse dans mon cœur concernant l'église d'Anceny. Je l'ai retardé parce que les exigences de l'enseignement nécessitaient de faire les choses dans l'ordre. Mais il me semble, par rapport à ce qu'on a encore vécu ce matin, que c'est véritablement le bon moment pour aborder le sujet. Le thème, il est tellement large que je voudrais juste lui donner ces quelques mots. Si mon peuple. Peut-être que déjà dans certains esprits, ils connaissent déjà la suite de ce verset, parce que c'est un verset que nous allons lire tout à l'heure. Si mon peuple. Si mon peuple. Le désir qu'il y a dans mon cœur pour l'église d'Anceny, et je crois que c'est le travail que l'Esprit de Dieu veut faire dans l'Église, dans chacun, dans nos cœurs. Et je pense que c'est du fait qu'on soit le même corps, nécessité pour chacun d'entre nous. Le désir de mon cœur, c'est que nous puissions, pendant quelques dimanches, nous encourager, nous stimuler, nous exciter à vivre une nouvelle Pentecôte, à revivre une vie spirituelle fraîche, à revivre cet attouchement divin, à refaire ces expériences, pas du passé, mais du nouveau, du frais. Merci Seigneur pour les multiples expériences que nous avons pu faire dans notre vie. Merci pour les expériences d'il y a 10 ans. C'est eux qui nous ont formés, pour certains même. C'est à ce moment-là qu'ils se sont convertis. Merci pour ces expériences d'il y a 10 ans, il y a 7 ans, il y a 5 ans. Merci pour les expériences que nous avons pu vivre ces quelques années, ces 2 dernières années. Et je ne dis pas ça d'abstraction. Je bénis le Seigneur de ce que, depuis que je suis avec vous, c'est pas grâce à moi, c'est pas ça, mais c'est je suis avec vous que depuis 2 ans. Donc je suis témoin, j'entends des délivrances des uns, des guérisons de l'autre, des déblocages dans les vies, des restaurations, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Je suis même un peu au regret. Quand je vous dis qu'il y a un témoignage, que tout le monde reste un peu la bouche fermée. Parce qu'on pourrait chacun pourrait dire, mais moi j'ai vécu ça, il y a vécu ça, et depuis 2 ans que je suis là, je crois que je pourrais dire que dans chaque foyer, il y a vraiment une expérience spirituelle forte qui a été faite. En fait, le désir dans mon cœur, c'est que nous puissions vivre effectivement et continuer à vivre des expériences. Mais pas seulement ponctuelles. Que chacun d'entre nous puissions revivre cette Pentecôte et la renouveler. Il arrive à la maison que j'achète du pain. Et j'aime le pain frais. Et vous ?
Pareil.
Et quel enthousiasme que j'ai quand le pain est frais à la maison. D'ailleurs, quand il est frais, le pain part vite. Et puis, étonnamment, plus le pain reste, et moins il part vite. Parce que quand le pain n'est plus si frais, il y a moins d'enthousiasme, n'est-ce pas ? On se passe plus facilement du pain, on va continuer à le manger parce qu'il ne faut pas le jeter le pain. Il ne faut pas jeter la nourriture, hein, mes bien-aimés. Mais quand le pain est frais, ça donne de l'enthousiasme. Et je crois que nous avons besoin, individuellement, de revivre des expériences fortes. Mais je crois que le cap dans lequel je crois que l'Église d'Anceny peut entrer, ce n'est pas seulement vivre une expérience et des expériences personnelles, mais que nous puissions vivre collectivement des expériences bénies du Seigneur. Collectivement. Rappelez-vous, à la Pentecôte, c'était tous ensemble. Mais ils furent tous baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Tous. Il n'y en a pas qui sont sortis du lieu. Oh, bah, lui, il paraissait un peu excité ce matin. Moi, rien du tout. Quand ils se sont réunis, quelques chapitres après, que le lieu se mit à trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils parlèrent tous, après, avec assurance du Seigneur Jésus, tous. Je chéris dans mon cœur cette prière. Seigneur, donne-nous de rentrer dans ces visitations. Non pas seulement, et merci, que chacun puisse goûter dans sa vie personnelle, dans ses expériences personnelles, la grâce de Dieu. Mais que nous puissions rentrer comme dans un corps. Que nous puissions connaître ces temps de bénédiction, ces temps ensemble, où chacun, quelque part, du fait qu'on aura vécu des choses ensemble, on aura encore plus envie d'être ensemble, n'est-ce pas que c'est comme ça que ça se passe? Et c'est en ce sens que je dis que je crois que nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte, d'un nouveau souffle divin, d'une nouvelle expérience forte. Ah, Jonathan, vous vous rappelez Jonathan Besnard qui était venu il y a 2-3 semaines? Il m'a encore nargué. Bon, il ne savait pas, lui, ce qui se passait dans mon cœur. Mais il nous a donné... J'en parle encore émotion parce que ça a touché ma jalousie, ma sainte jalousie. Il était à table et puis on parlait de choses et d'autres. Enfin, vous savez, pasteur, il parle toujours des mêmes choses. Hein. Et puis il me parle d'une expérience qu'il a vécue. Il dit, voilà, on était dans une église et il y a eu la prédication. Et après, il y a eu un temps de prière et après, un grand temps de silence. L'auditoire fait silence. Et il dit, mais c'était un grand auditoire. Imagine un grand auditoire et le silence total. Et puis au bout d'un moment, lui était dans une partie de cet auditoire et comme si c'était au bout là-bas, il entend quoi, un petit bruissement, comme des langues qui commencent à se délier. Et il réalise qu'en fait, il y a des gens qui sont commencent à être visités par le Saint-Esprit. Et là, il réalise, il est dedans, que ça passe comme une vague, comme ça, et que le Saint-Esprit passait sur l'Assemblée, et que chacun était touché, visité par le Saint-Esprit, et que chacun commençait soit à parler en langue, à prier, à louer le Seigneur, et ça passait comme ça dans l'auditoire. Il a dit, et ça passait du temps. Il a dit combien de temps? Il a dit du temps ou pas? Enfin, en tout cas, je me rappelle qu'il disait que ça passait comme ça dans l'auditoire, et que ça revenait. Une expérience commune, forte. Il a dit après pendant 3 jours, je ne pouvais plus lire ma Bible. J'ai commencé à... Oh, ça c'est pas du Seigneur ça alors. Il dit pendant 3 jours, je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas prier. Il disait chaque fois que j'ouvrais la Bible, il suffit que je lise un mot, et je commençais à pleurer, à être convaincu de péché, à réaliser la grandeur de Dieu. Et il disait, mais ça ne m'est pas arrivé qu'à moi. On était un groupe de Français et quand on se réunissait pour discuter, et on s'est aperçu qu'on avait vécu la même expérience. Tous ceux qui étaient là pendant plusieurs jours, ils avaient été tellement baignés de cette atmosphère commune, de cette Pentecôte, que leur cœur avait été touché, saisi. Je ne veux pas qu'on vive la même chose. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de copier-coller. C'est un exemple de ce que nous pourrions vivre. Ce sera certainement autre chose, qu'importe. On a lu dans la Bible qu'il y en a qui ont reçu une flamme de feu. C'est arrivé qu'une seule fois, hein. D'autres fois, la maison a bougé. C'est arrivé qu'une seule fois. Cette vague qui passe, c'est peut-être arrivé d'autres fois, j'en sais rien. Mais je crois que vous avez compris le sens de notre aspiration et de la méditation qui va nous porter pendant quelques semaines. Que nous puissions retrouver cette Pentecôte personnelle, afin que nous puissions la vivre collectivement. Il y a une histoire comme ça qui est étonnante. Vous la connaissez, c'est dans Marc chapitre 5. Cette femme qui était malade depuis 12 ans, impure, perte de sang. Elle s'est pas dit si mon peuple, elle s'est dit si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Si seulement. Ce n'est plus oh à l'église, oh les autres, oh la foule. Elle s'est dit si seulement moi. Si seulement moi, je pouvais. Elle a mis de côté sa maladie, elle a mis de côté le candidaton, elle a mis de côté la conception religieuse, elle a mis de côté... Elle s'est dit, mais si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Elle y est allée. C'est la foi. C'est la plus belle manifestation de la simplicité de la foi. Si seulement. Elle avait juste entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, mais... Si seulement elle est allée, elle s'est faufilée dans la foule par derrière, nous dit le texte, pour être bien sûr de ne pas être vue. Et là, elle a senti une puissance qui l'a visitée. Alléluia. Elle a été guérie. Ce qui est le plus étonnant, je trouve, dans cette histoire, c'est qu'elle a été bénie. Amen. Parce qu'elle a osé toucher Jésus. Mais ce qui me surprend toujours quand je lis ça, c'est qu'il y avait plein de gens qui touchaient Jésus pourtant, n'est-ce pas? Et les autres? Et les autres? Jésus a dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi et qui a touché cette fille. Pourquoi pas les autres. Parce qu'il n'y avait pas dans le cœur des autres ce « si seulement moi, si seulement moi ». Et mes bien-aimés, si on veut vivre des choses grandes avec le Seigneur, pardonnez-moi d'être peut-être provocateur, mais il faut avoir cette aspiration égoïste. Se dire « si seulement moi, moi je veux toucher, moi je veux que le Seigneur me touche ». N'attendons pas que ce soit l'Église qui soit touchée, une porte, oh, oh. Non, c'est une aspiration personnelle, c'est un désir, c'est un soupir de l'âme. On ne verra pas évidemment tout aujourd'hui. Nous allons voir et méditer plusieurs textes pour voir les quelques clés qui nous sont données sur la parole. On va réfléchir également aux obstacles de cette bénédiction spirituelle. On étudiera quelques personnages qui sont comme des exemples pour nous. On verra également quelques expressions bibliques qui, à elles seules, renferment tout un univers. Je voudrais vraiment que nous puissions nous encourager à avoir ce désir, cette prière, si seulement je pouvais toucher le bord de vêtement. Est-ce que vous avez envie de faire cette prière? Je voudrais que nous puissions nous encourager, non pas à des mots, mais à la foi, à retrouver cette simplicité de la foi, mes bien-aimés. Paul disait aux Galates, je crains que vous ayez perdu la simplicité à l'égard de Christ. Il faut que nous revenions à cette simplicité. Cette fille-là, elle a juste entendu parler de Jésus et sa foi lui a dit, si seulement. Il n'y a pas eu de théologie, il n'y a pas eu de prédication, il n'y a pas eu d'explication des dons spirituels, il n'y a pas eu besoin de la prouver quoi que ce soit. Il y avait seulement dans son cœur cette foi simple qui s'attend à quelque chose. Mais j'aimerais que nous puissions nous encourager à avoir faim et soif. Ça vous arrive d'avoir faim et soif? On ne se laisse pas mourir de faim ni de soif, n'est-ce pas? Et quelque part, c'est bon d'avoir faim et soif. On dit que c'est une bonne maladie d'avoir faim, c'est ça? Il vaut mieux avoir un enfant qui a faim qu'un enfant qui veut rien manger. Et comment Dieu nous regarde? Qu'est-ce qu'il voit dans nos vies? Des enfants qui ont faim? Des enfants qui... Non, j'ai pas faim, spirituellement parlant. J'aimerais que nous puissions nous encourager à chercher à atteindre ce rocher qui peut-être pour nous encore trop haut. À atteindre, à avoir des rêves spirituels, des aspirations. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, c'est trop haut. Nos aspirations, on dit, oh, non, c'est pas pour moi. Mais si! En Jésus-Christ, nous pouvons atteindre ce rocher qui est aujourd'hui trop haut. Mais que nous puissions déjà dans notre cœur dire, Seigneur, je voudrais tellement aller plus loin sur cette montagne. Je voudrais être comme Moïse. Il y en a qui sont restés dans la vallée. Non, on va avoir peur. Oh non, pas pour nous. Oh non, vas-y pour nous, toi. Mais que chacun en puisse dire, non, je veux pas rester dans la vallée avec les autres. Je veux monter sur la montagne, moi aussi. Oh, Moïse y est allé. Moi, je suis pas Moïse. Si vous êtes des Moïse, vous êtes le peuple choisi. Christ a déchiré le voile. C'est plus que la montagne. C'est le ciel que le Seigneur nous a ouvert. Que nous puissions nous encourager à chercher à atteindre ce rocher qui peut être trop haut pour nous. Que nous puissions nous encourager tout simplement à vivre le royaume de Dieu au milieu de nous. Amen. Le Seigneur nous a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et vous savez, on peut être très très proche sans jamais être dedans. Sans jamais être dedans. Un homme comme ça s'est approché. Et Jésus lui a dit, le royaume de Dieu n'est pas loin. Mais il n'était pas dedans, il n'avait pas saisi. Il n'avait pas cette foi, cette envie, cette aspiration. Vraiment le désir de mon cœur au travers de ces méditations, c'est que nous puissions nous exhorter, nous encourager, nous stimuler à rentrer dans cette Pentecôte, à revivre cette Pentecôte. Ce matin, nous allons voir juste un point que j'ai appelé, intitulé « Ne nous laissons pas dessécher ». Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la deuxième livre des Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament, avant le livre des rois. Non, j'ai une bêtise, évidemment. Avant le livre des Némi et après le livre des rois, pardon. La deuxième livre des Chroniques, chapitre 7. Et ce que nous allons lire est plus que les propos d'un prophète, c'est Dieu lui-même qui a parlé ce jour-là. Un moment particulier, c'est après la construction du temple. Après que tout était fondé, que tout était construit, après des années d'efforts, de sacrifices, parce que ça a été pour le peuple un moment très difficile. Verset 11, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, et là Dieu parle, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand... Vous cherchez encore les références ? Deux Chroniques, chapitre 7 et verset 13. Alors là, c'est tellement important qu'il faut que tout le monde soit dans le texte. Ah, je suis content que nos vieilles billes papier aillent plus rapidement que toute la technologie moderne. Alléluia. Alléluia. Allez, on continue. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, c'est Dieu, hein, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux, les yeux de Dieu seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours, écoutez ça, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes commandements, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais, si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette nation? Elle répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Aussi haut, aussi grand, aussi puissant, aussi marquant qu'aient été nos expériences d'hier, si nous nous détournons du Seigneur. Il s'éloigna de nous. Mais que j'aime ces phrases. Si mon peuple revient à moi, j'aurai mes yeux, j'aurai mon cœur au milieu de nous. Mais n'est-ce pas ce dont on a besoin? La Pentecôte, c'est pas ça. Mais si, c'est ça. C'est la manifestation de la grâce de Dieu au milieu de nous. La première notion que je voudrais aborder aujourd'hui et par rapport à ce texte, c'est ce que nous pouvons décoder au verset 13. Dieu dit, c'est incroyable que ce soit lui qui dit ça, mais je fermerai, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. La pluie, symbole de la bénédiction, symbole de la fertilité. Sans pluie, on ne fait rien. La pluie est dans plusieurs situations symbole du Saint-Esprit. On a même des chants qui disent ça. Viens aux pluies abondantes. La pluie, c'est le symbole de la bénédiction. Et Dieu dit, et de la présence de... Et Dieu dit, si la pluie cesse, on pourrait presque voir là trois niveaux d'alerte de Dieu. La première alerte, c'est... Il n'y a plus la bénédiction, il n'y a plus l'abondance. Il n'y a plus cette onction qui descend en haut et clac, et qui rassasie tout le monde. Quand il pleut, on est tous mouillés, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé une fois, ça. J'étais enfant, j'étais avec mon papa, on marchait dans la rue, et puis on entend un bruit bizarre, on sait pas. On se retourne et en fait, il y avait un nuage qui réveillait, et ça pleuvait. Donc il y a forcément une limite à la pluie, mais la pluie nous a vite rattrapés. Hein. Dieu dit... Quand je fermerai le ciel. Après, il dit, quand j'enverrai les sauterelles. C'est un fléau. Une sauterelle, ça va, on peut la gérer. Hein. Deux, trois, ça va, même enfant, on aime courir après, les récupérer. Mais quand ce sont des milliers de sauterelles, des milliards de sauterelles qui envahissent un pays et qui consument tout. Dans plusieurs pays d'Afrique, régulièrement, il y a des carnages comme ça, des famines, parce qu'il y a des nuées de sauterelles qui viennent et qui mangent tout, toute la végétation. Et après le passage des sauterelles, il n'y a plus rien à faire, plus rien à faire. Ce n'est plus là un problème de manque de bénédiction. C'est carrément le malheur qui vient de l'extérieur. Et le troisième fléau, le troisième niveau d'alerte de Dieu, c'est la peste. Le problème n'est plus de l'extérieur qui vient nous bouffer, qui vient embêter nos circonstances. C'est plus les soucis qui viennent nous accaparer. C'est plus des problèmes dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle. Mais c'est carrément la peste qui a caché à nous. Et dans la Bible, la peste, c'est le symbole de la mort. C'est la mort. Et là, il n'est plus question de dire c'est à cause. Oh, le Seigneur n'a pas répondu. Oh, c'est à cause des sauterelles. Là, c'est nous qui sommes malades. Là, c'est nous qui sommes en train de mourir. C'est nous qui sommes comme morts. Parce que quiconque était atteint de la peste, il était sûr qu'elle allait mourir. Le premier avertissement, c'est peut-être celui-ci qui devrait le premier nous interpeller. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura plus cette bénédiction, ça doit être pour nous, enfants de Dieu. Parce que c'est ce qui concerne. Hein. C'est mon peuple sur lequel est invoqué mon nom. Nous invoquons mon nom. C'est pour nous. Et là, Dieu nous donne un premier signe. Si je ferme le ciel, et s'il n'y a plus cette pluie, cette rosée, cette grâce, cette bénédiction qui descend du ciel jusqu'à vous, quand vous ne vivez plus ça, alors c'est là que je crois qu'il faut que nous, enfants de Dieu, nous commencions à réagir. C'est là, n'attendons pas le fléau de la sauterelle, n'attendons pas d'être morts. Il faut réagir dès le départ, dès qu'on sent qu'il n'y a plus cette bénédiction, cette grâce. La nature nous enseigne. qu'il faut boire. La nature nous enseigne qu'un homme, une femme, un enfant, qui ne boit pas pendant 3 jours, met sa vie en danger. En tout cas, si ce n'est pas sa vie, c'est sûr, il va avoir des problèmes de santé. Ça, c'est évident, c'est une certitude, ça, on le sait. 3 jours, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Alors, c'est beaucoup pour le corps, mais c'est pas grand-chose, quoi. Priver quelqu'un pendant 3 jours de quelque chose, 3 jours à la fois, c'est pas grand-chose, mais pour le corps, l'absence d'eau pendant 3 jours, c'est mortel. Spirituellement, c'est pareil, mes bien-aimés. Spirituellement, c'est pareil. Nous avons besoin de nous abreuver. Nous avons besoin de nous désaltérer de l'eau divine. Nous avons besoin de nous désaltérer, de nous rafraîchir, de nous imprégner, de consommer la pluie divine, la grâce de Dieu. Il est bon de ressentir la soif. Il faut boire quand on a soif. Alors je sais qu'il y a un grand débat. Oh, faut boire 1,5 litre, oh non, non. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il faut boire. Et il faut boire. Merci, dans les aliments, il y a déjà de l'eau. Dans les circonstances de la vie, le Seigneur peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Mais on ne trouve pas suffisamment d'eau dans les aliments. Il faut aussi prendre de l'eau, ou du café, ou du thé, qu'importe, ou des boissons. Mais il faut boire. Et nous, c'est pareil, enfants de Dieu. Nous avons besoin de boire directement à la source. On ne peut pas se contenter d'une prédication dans laquelle il y aura un petit peu d'eau. On ne peut pas se contenter de quelques cantiques qu'on entend à la radio ou sur notre CD dans lequel il y aura un petit peu de rafraîchissement. On ne peut pas se contenter de la prière d'un frère ou d'une sœur qui sera comme pour nous un rafraîchissement, une goutte. On a besoin nous-mêmes d'aller à la source. On a besoin nous-mêmes de boire à grandes eaux. On a besoin régulièrement de nous rassasier du Seigneur. Spirituellement, si nous ne nous rafraîchissons pas, si nous ne nous désaltérons pas, nous allons mourir. Si je comprends 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, une phrase toute simple. L'un sème, l'autre arrose et l'Éternel fait croître. C'est ça? Si je comprends, il faut que ce qui a été semé soit arrosé pour que l'Éternel fasse croître. C'est bon de recevoir la parole. Mais il faut qu'on soit arrosé. Il faut qu'on reçoive cette onction spirituelle. Une vie chrétienne sans expérience spirituelle, c'est une vie fade, mes bien-aimés. On peut se contenter d'un petit ressenti. On peut se contenter d'entendre un petit truc comme ça. Ah, c'était bien, c'était pas bien. Ce matin, c'était bien l'échange, la prédication, moins bien. On peut vivre comme ça. Mais on va pas croître, on va pas grandir. Qu'avez-vous envie de devenir ? Une petite pousse ? Ou un arbre fort. Un arbre sur lequel Jésus le compare, que cette semence, cet évangile devient après le plus grand de tous les arbres du jardin. Qu'avez-vous envie de devenir? Avez-vous envie de devenir cette petite herbe-là comme en été qui pousse et parce qu'elle n'a pas assez de racines, elle va vite s'assécher? Ou avez-vous envie? Allez, je vous invite à lire le psaume 1er, vous voulez bien? Le psaume 1er, c'est presque l'antipode de ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, alléluia, il n'en est pas ainsi du méchant, forcément. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Amen. Et cette paille que le vent dissipe, c'est une paille qui a été séchée et que le vent peut emporter comme ça. Ça ne vous donne pas envie, ça? Le juste est comme cet arbre planté. Il n'est pas seulement planté, il est planté, mais à côté d'un courant d'eau. La semence a été déposée dans nos vies. Alléluia, merci. Merci de nous avoir sauvés. Merci de l'avoir guéri. Merci d'avoir ouvert nos cœurs, d'avoir éveillé notre intelligence sur ta vie, sur ton amour. Merci. Merci pour cette semence de vie qui a communiqué la vie. Mais nous avons besoin d'être auprès de ce courant d'eau. On a besoin que nos racines, que nous cherchions à puiser dans cette eau vive. Nous avons besoin de cette force qui n'est pas en nous-mêmes, qui n'est pas dans notre sève, mais qui viendra de ce que l'on on prendra de cette eau qui coule pour porter du fruit. Nous avons besoin de porter du fruit. Jésus le dira en Jean 15, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Si vous portez, je dis quoi ?
Beaucoup.
Beaucoup, merci, c'était ça que je voulais insister. À quoi est-ce que nous aspirons-nous ? À quoi aspirons-nous ? Ne nous desséchons pas. À la maison, j'étais en train de dire, mais quels seraient les signes du dessèchement ? Alors, je faisais une petite liste. Alors là, mais non, là, le mec, il est carrément mort déjà. Et puis, j'étais sous ma douche. Alors, je réfléchis, j'ai des visitations sous ma douche, moi, de temps en temps. Et il y a un mot qui m'est venu, un mot très spirituel : enthousiasme. Pourquoi je dis très spirituel ? Parce que enthousiasme, c'est un mot grec, pardonnez mon accent, entheos, ça veut dire en Dieu. Et je dis, mais c'est ça, Seigneur. Quel est le premier signe du dessèchement ? C'est quand on perd notre enthousiasme. Quand on perd notre enthousiasme. Et là, vous, chacun d'entre vous, ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu, vous savez de quoi on est en train de parler quand on parle de l'enthousiasme qui vient du Seigneur. Vous savez l'enthousiasme qu'il y avait dans votre cœur le jour où cette semence a été mise dans votre vie. Vous vous rappelez et vous le savez. L'enthousiasme que vous étiez capable de communiquer même aux autres. Quand cette semence prenait forme en vous, vous vous rappeliez que c'était l'enthousiasme qui vous motivait à faire toutes les choses. C'est cet enthousiasme qui vous donnait envie de méditer la parole jour et nuit. Et on le sait que ce n'est pas des mots en l'air. Quand il y a de l'enthousiasme, on médite véritablement la parole jour et nuit. Non, pas vous ? Mais si, ça travaille. On n'est pas là comme ça pendant nous jour et nuit. Ah, j'ai mal au dos, mais non, je continue. Non, c'est un entretien du cœur, c'est dans notre cœur. Méditer, on pourrait le comparer à ruminer. C'est quelque chose qui est là. On peut méditer sous la douche. On peut méditer au volant. Mais c'est l'enthousiasme qui nous pousse à ça. C'est pas la prédication du pasteur. C'est pas le devoir moral, il faut que je lise la Bible, il faut que je prie. Ça suscite pas l'enthousiasme. Mais c'est l'enthousiasme qui nous donne envie de chercher la face de Dieu, qui nous donne envie de lire la parole pour savoir, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. C'est l'enthousiasme qui fait que quand je sais que je vais prier, le Seigneur va me visiter. Parce qu'en plus de la semence, il y aura ce courant d'eau qui va me visiter. Et Dieu dit, quand je n'enverrai plus la pluie, quand je fermerai le ciel, quelle va être notre réaction ? C'est bien Dieu qui dit qu'il va le faire. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il ne nous aime pas ? Est-ce que c'est une option retenable ? Est-ce que Dieu ne nous aime pas ? Mais Dieu veut voir quelle réaction nous avons à avoir. Et c'est pour ça que je dis que c'est comme trois niveaux. Parce que quand nous ressentons cette sécheresse, ce dessèchement dans notre vie, et qu'on continue de vivre comme si on pouvait très bien vivre sans, alors il va entamer la deuxième phase. Ah bon, le dessèchement, ça te suffit pas. T'as plus d'eau, t'as plus d'onction, t'as plus de grâce, t'as plus de rafraîchissement, t'es complètement sec au-dedans de toi, t'as plus d'envie, t'as plus d'enthousiasme, mais toi, tu continues à vivre. Wow. Et en plus, dans cet état de cœur, tu permets de juger les autres. Alors je vais t'envoyer les sauterelles. Et là, ça va toucher, t'es bien, là, ça va toucher ton univers, là, ça va toucher. Et là, tu vas faire quoi ? Mais revenons à notre dessèchement. Le Seigneur nous interpelle et que nous nous laissions interpeller quand nous perdons l'enthousiasme, que nous réalisions que nous sommes en train de nous dessécher. Que nous puissions dire, Seigneur, non, 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 je veux pas ça, Seigneur. Je veux que mon cœur soit réjoui en toi. Je veux faire de l'Éternel mes délices. Je veux que ce soit toi qui sois ma force, ma joie. Seigneur, je veux que ce soit toi qui me parle. Je sais que c'est pas mon épouse, c'est pas le programme télé, c'est pas mon boulot qui va me rendre heureux. C'est même pas mes enfants. Qui va vous rendre heureux? Qui va vous redonner cet enthousiasme? Qui va vous donner cette motivation de vous lever chaque matin? Qui va vous donner la force d'affronter tous les soucis de la vie? Qui? C'est le Seigneur. Et il le fera par cette onction, par cette grâce, par ce courant d'eau.
Je voudrais juste lire quelques versets. En Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et c'est encore Jésus qui parle. Que celui qui a soif, qu'il vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. En Ésaïe, chapitre 55, verset 1er, il est écrit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui se sent faible, même celui qui se sent impuissant, même celui qui se dit: mais c'est trop tard pour moi, je suis comme mort. Non, tu n'es pas mort. Viens, venez et achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez. Écoutez, et votre âme vivra. Seigneur grand Dieu, que ces paroles puissent éveiller un feu dans notre cœur. Que le plus découragé parmi nous puisse serrer ces promesses de la parole de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il est en train de nous dire: toi qui t'entêtes, toi qui depuis des mois, toi qui peut-être même depuis des années, tu n'as plus d'enthousiasme, tu es en train de fermer ton cœur. Non seulement j'ai fermé le ciel, mais toi t'as fermé ton cœur. Je suis en train de te dire: viens à moi, viens à moi. Venez vous tous qui êtes fatigués et cherchés. Et celui qui croira en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Si nous n'éprouvons plus la soif, il y a un grand danger pour nos vies, un grand danger, un grand danger. Cette femme s'est seulement dit: si seulement je pouvais toucher le bord de vêtements, que nous puissions tous nous dire: mais si seulement je pouvais retrouver cette faim, cette soif, cet enthousiasme rituel, si seulement cette pluie pouvait me toucher, si seulement cette onction pouvait revenir, si seulement je pouvais retrouver cette transport d'allégresse. Si seulement, si seulement. Et Dieu nous dit: c'est possible, venez à moi et vous serez rassasiés. Je terminerai par un dernier verset et nous prendrons le temps d'élever notre cœur, nos voix. C'est Ésaïe, chapitre 58, verset 11, pour ceux qui prennent des notes, où il est écrit: l'Éternel sera toujours. Vous comprenez ce mot-là, toujours? Quels que soient les temps, les circonstances, notre situation, quels que soient nos raisonnements, quelle que soit notre compréhension ou notre incompréhension, l'Éternel sera toujours quoi? Il sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme. Dans les lieux arides, oh, c'est nous ça! Dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. On retrouve cet enthousiasme, cette force qui vient de l'intérieur. Tu seras comme un jardin arrosé, mais c'est encore nous ça! Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Seigneur, dans tout ce que nous voulons venir en lire, on réalise que nous avons toutes les solutions pour ne pas nous laisser dessécher. Mais nous avons là, dans ces paroles, dans ces promesses, dans ces projets de Dieu, tout ce qu'il nous faut pour nous relaisser toucher, mouiller de la grâce de Dieu. Pardonnez-moi cette expression, onctionner, être baigné, être touché par la pluie divine. Est-ce qu'il y en a qui ont faim et soif de goûter cette grâce divine? Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'être rafraîchi? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de connaître cette nouvelle Pentecôte? Je voudrais voir des mains se lever, non pas pour en faire plaisir, Mais parce que les démons voient votre main levée. Parce que les mauvais esprits voient vos engagements. Tout ce qui se passe dans notre tête, c'est bien. Mais quand on prend une autorité spirituelle, quand on manifeste quelque chose, c'est une prise de position.